amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonjour. Les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Tout d'abord, je vais vous parler d'une revue qui nous est familière maintenant, puisque cela fait quelques années que nous donnons toujours le compte-rendu des publications de la revue de poésie Vive et Dérive, Nouveau Délit, qui a présenté, parce que c'était au mois de janvier, qui a présenté son numéro 83, mais qui avertit, ce numéro 83 est enfin le 84e numéro, puisque, eh oui, il y a eu un numéro 1. Alors, voici ce que dit Cathy Garcia Canales dans son éditorial. Je ne vais pas vous le lire en entier, mais je vais vous lire quand même un petit extrait. Et un éditorial qu'elle garantit sans intelligence artificielle. Alors c'est un fait, dit-elle, les mauvaises farces remplissent toujours les mêmes poches, mais les faux clowns, sinistres pitres du pire, ne feront jamais rire les enfants. Il faut avoir un bon grain de poésie pour être drôle, et de solides brins d'humour pour mettre pattes au sol. Alors, résolument pour 2026, bien s'équiper. Deux ailes joliment bricolées, maison pour la respiration, et un grand balai avec de grands sauts de rire, francs et frais, prêts à tout éclabousser pour rincer le monde. Voilà. Alors, ce numéro est un numéro qui est toujours de bon aloi, c'est-à-dire excellent comme d'habitude. Il y a Patrick Gillard, lui, il vient de Belgique. Flore Nélin, Marie-Anne Neubreuch, Samuel Martin Bosch, et puis peut-être deux sœurs, ce n'est pas précisé, Frédéric Duriez et Marianne Duriez. Voilà. Donc tous ces noms-là sont des noms à connaître, et c'est donc vraiment un plaisir de lire leurs poèmes. Et puis, il y a un délit de fin humour de Jeanne Debat, qui est un coup de gueule promotion extrait d'un dictionnaire des mots imbitables. Hein, pas inhabitable, mais imbitable. Oui, vous avez bien entendu, imbitable. Et puis, un délit du réel de Teresa Stegleder, excusez ma prononciation, c'est un nom donc allemand, puisqu'elle vient d'Allemagne, La gouttière et la vitrine, ces deux courtes nouvelles, traduite par Simon Degrave. Voilà. Alors, vous pouvez vous procurer cette revue. Ça va vous coûter 40 € pour 4 numéros, ou 75 pour 8 numéros. Et vous pouvez vous abonner à l'association Nouveau Délit, association Nouveau Délit, 415 route de la Grèze, 415 route de la Grèze, Grèze G-R-E accent aigu Z-E, 415 route de la Grèze, 46 300 à Soucirac, Soucirac, S-O-U-C-I-R-A-C. Alors vous aurez ces renseignements sur le site Les Poètes, sans accent et tout attaché, Les Poètes, un point et site, S-I-T-E, dès que j'aurai le temps de faire la légende des émissions, je vous prie de m'excuser, mais bon, j'ai été un petit peu malade ces temps-ci, et je vais m'y mettre tout de suite, c'est promis. Voilà, parce que sinon, je vais me faire gronder par Claude. Alors, je vais vous lire Marianne Duriez. Alors, Marianne Duriez, c'est qui? Parce que il y a à la fin donc des textes qui sont publiés donc de Marianne Duriez, il y a un petit appendice qui nous donne un peu de biographie. Alors, Marianne Duriez, elle a une âme de nomade et elle a aussi et surtout la littérature au cœur. Elle appartient au cercle littéraire des Têtes Brûlées, groupe d'amis d'artistes libertaires. Après plusieurs années en Amérique du Sud et en Afrique centrale, elle vit actuellement à Madrid. Ses textes sont publiés dans diverses revues de poésie et son recueil, alors le titre de son recueil c'est sur mon chemin, virgule, le fleuve. Alors, ce recueil-là, il a paru dans la collection Polder, hein, en mai 2024, la collection Polder animée par Claude Verset, vous savez, de la revue Décharge. Voilà. Alors, je vais vous lire donc Marianne Duriez, qui est libertaire et grande voyageuse et qui vit à Madrid. On l'aime avec par-ci acrimonie, le lundi, mais plus le jeudi, pas toute la vie non plus. La mauvaise fille lit et veut vivre et mourir aussi, à 13 ans, à 16 ans, à 22 ans. Elle veut être libre, elle veut voir le monde, parce que la vie, ça ne peut être que ça, et qu'il faut l'éprouver, et sentir la sueur et les couleurs, traquer les promesses de l'encre, tronquer les obstacles, tromper les oracles. La mauvaise fille est fille d'Emma. Elle se veut muse des poètes et maîtresse des rois. Mais elle a bu l'arsenic jusqu'à la lie, payant son audace par de mauvais lits, sales et honteux, normal pour une mauvaise fille. La mauvaise fille est ingrate et délicate, princesse au petit pois, qu'on aurait voulu plus docile, plus facile. Sur son berceau, les fées ont oublié la beauté. Anastasia, plus que Cendrillon, un grand nez et des idées tordues. C'est la mauvaise fille aux mauvais rêves, aux mauvais choix, aux angles aigus, aux os pointus, à la langue bien pendue, au gibet des frères humains. La mauvaise fille est un livre ouvert sur la mer et les mers chaudes, la détresse et les petits pois. C'est la fille triste qu'on murmurait mauvaise, la fille inquiète qui ne trouve le repos qu'à l'aurore des îles au trésor. La mauvaise fille met des soupçons dans vos mauvais cafés, du piment dans vos desserts du dimanche, du sang sur vos robes blanches. C'est la fille sauvage qui n'a d'autre conversation que celle des bars bruissants des bouts du monde, d'autre demeure que celle aux murs de papier, aux toits de fumée, au sol tapissé de tapis volants. Je suis la mauvaise fille, piquée d'une bonne étoile, au bûcher des bonnes fées. Deuxième poème. Nuit brûlante à Madrid. Donc c'est là qu'elle habite. Hein. À Madrid, les nuits brûlantes me rappellent cette maison au Soudan, où j'ai vécu quelques mois, il y a longtemps. Dans la petite chambre au mur sombre, il y avait un fan au plafond, sauf quand l'électricité coupait, donc presque tout le temps. Une moustiquaire tissée de cauchemars. Un matelas mou, en cuir odorant, sur un sommier tressé en fil de Scooby-Doo. Une douche, d'où fuitait parfois un fallacieux filet d'eau. Un rat qui m'a mordu les orteils un soir de pluie. Un amant qui ne parlait que l'arabe du désert, Anna Babak. Il se foutait de transgresser les règles, et moi aussi. Il m'avait embrassé un après-midi à Bibi, dans une case assombrie par l'orage. Un orage puissant, comme son étreinte, sa langue, ses doigts, son sexe. Il manque à Madrid l'appel du muezzin, la saveur âcre et sensuelle de la chicha, le henné sur mes doigts de sable, dans mes yeux, les cauchemars dans mon crâne, la mort partout, les yeux tristes d'Abou Bakar, enfant mutilé de Kalma. d'apporter de la viande de chèvre trop dure à avaler, comme l'horreur du Darfour. Que les nuits brûlantes sont douces à Madrid. À Madrid, les nuits brûlantes me rappellent l'humidité des patios cubains au siècle dernier. De vieux airs de salsa, des fauteuils à bascule qui battent la mesure, des attelages increvables, des pneus, des chiens, des chevaux crevés. La Guayabara colle au dos trempé des danseurs. La sueur coule sur les gorges enivrées de rhum et de lune moite. Les ventres vibrent et les souffles s'en mêlent dans les cocos taxis qui virent sur le Malecón, égayant les gamins dans les rochers et dans les rues fendues de la Havane. Dans une boîte en bois verni, j'ai ramené deux gros cigares Cohiba, 25 robustos hechos a mano. Mais ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que de se faire oublier. Souvenirs qui s'émiettent et essaiment leur décadence au rythme des déménagements. 20 ans ont passé. À Madrid, les cigares se font la malle. Momies mal fagotées allaient traîner leur texture dans les bars cubains de la Latina. J'ai rempli la boîte en bois verni de fleurs d'hibiscus et siroté un jus de bissap bien glacé à la santé du Che. À Madrid, les nuits brûlantes me rappellent les hauteurs de Mascate, le goudron fumant, le biryani mouton qui embrase les papilles, le bouillon des bains clandestins dans les wadis au petit matin, les guêpes rouges, le café épais, la tente désert qu'on avait achetée exprès. À l'hôtel de Sûr, les lits étaient sûrement infestés de punaises. Rues mouillées, lumières brouillées, bouillies de paysages. Puis le vent a déplacé le désert. Enfanté des tortues de mer brûlaient nos yeux. Au départ du hameau d'Al-Qitayem, j'ai halluciné une cascade, un village abandonné, mais c'était un mirage, et le soleil a pris ma vie. L'orage s'est chargé de ma toilette mortuaire, le Jebel Cham a refermé son suaire sur mes souvenirs. À Madrid, les nuits brûlantes me rappellent les soirées du vendredi à la Casa Amarilla, les bouteilles de Paseña givrées, les vieilles chansons qu'on écoute à l'incandescence déliquescente des éclats de nos erreurs et de nos mauvaises fois, des étincelles ardentes de nos discours embrasés, des braises passagères d'histoires déjà consumées. Les cartes dansent entre les cendres et les batailles perdues. Chacha se met en chasse. Guigui va pisser dans le basilic. L'eau calme de la piscine est la vestale, du bleu austral de la nuit amazonienne et des notes de blues, jusqu'à ce que l'un de nous aille s'y défaire en douce de ces défaites. Ces dernières coulent, voltigent et vont s'accrocher aux carreaux de la piscine, algues collantes engluant nos gangrènes. Sur mes nuits madrilènes, seule s'accroche la solitude. À Madrid, les nuits brûlantes me donnent envie d'enfourcher mon balai de sorcière. Je prendrai mon amour à califourchon derrière moi et on partira dans la Sierra Norte, peut-être même jusqu'au sommet de la Guadarrama. Là, il y aura une cabane en bois, deux chaises et peut-être un hamac. La nuit drapée de montagnes, les étoiles au ciel faisant un doux frou-frou, on se taira, on posera le balai contre le mur, en pierre ou en bois, le mur, comme tu voudras. On respirera le thym sauvage et les bouquets de romarin. La terrasse quittera le coteau et s'envolera. Ravi par le vertige, je serrerai fort ta main. On s'arrimera au sol de bois, à travers des lattes. Passeront les rimes de la nuit, fileront les douleurs de nos écorces craquelées. Le sol se disloquera et on tombera tous les deux dans le Val Noir des déchus ou dans les draps Ikea de notre lit Calier de Andorra. Marianne Dutreize. Alors il y a un exergue, une très belle d'abord illustration, et sous cette illustration, il y a un exergue, quelques vers de notre ami Marc Tison, donc poète, avec lequel nous avons eu le bonheur de faire des émissions ici, à Radio Occitanie. On partira à l'aube sur les océans, on part toujours à l'aube, dans la pureté des promesses, avant l'ouverture des supercheries marchandes. Ça, c'est du Marc Tison, donc, et c'est extrait de son recueil Des Nuits au Mixeur. Des Nuits au Mixeur, on en a parlé d'ailleurs, ici, à ce micro. Voilà pour... Et puis, j'ai bien envie de continuer un petit peu, parce que vraiment, c'est une excellente revue. Je voudrais vous faire entendre une autre voix, peut-être, de cette revue, de ce numéro. Je n'ai que l'embarras du choix, ce qui est peut-être aussi toujours un petit problème. Je vais vous faire écouter les textes de Marianne Bruch. C'est extrait d'un recueil qui s'appelle « Cristallin secret ». Cristallin secret. Nuit sans issue. L'accès au sommeil est un pouvoir magique. L'esprit s'enfonce dans les fourmilières de la chair, les vertiges aboutissent sans pour autant atterrir. Je tourne autour de la porte intérieure. À tâtons, j'essaie de faire entrer la fatigue dans l'orbite des songes. En vain, je tente d'amortir la chute des heures sur mon oreiller maigre. Le temps qui passe refuse de me laisser filer. La maison tient la nuit en respect. Les volets de la chambre ne sont pas encore mûrs. Un novembre éteint. Cette année, l'automne est presque sans couleur. Les arbres abandonnent la partie sans vouloir jouer leur gamme. Les feuilles meurent dans la plus stricte intimité, ni tambour ni trompette, estompée par la boue, détrempée des faubourgs. Cette année, l'automne fait tout tomber, vraie des bandades, des âmes, des nerfs et des épaules, tandis que les pluies sur les plantes tournent allègres et que je me paume. Les dahlias continuent bêtement à faire leur grande roue d'héliothérapie. Mi-derviche, mi-pan. Cette arrière-saison va nous arracher, une à une, toutes nos vanités. Ce sera encore plus simple qu'un hiver sans neige. Et un exergue, il y a sous ce poème, donc, un novembre éteint, c'est le titre de ce poème que je viens de lire, il y a encore une citation d'un poète qui nous est cher, c'est Cédric Le Pinvin. Cédric Le Pinvin, qui habite le Tarn-et-Garonne, dont nous avons toujours salué ici les recueils quand il en faisait paraître. Et c'est une citation extraite de son recueil « L'immobile, serti de griffes ». Voici ces quelques vers. « Novembre, lentement, pourrit ses feuilles dans les combes. Le ciel, blanc cassé, respire un temps sur deux. Sous le tas de bois, ce qu'il reste de l'amour, quand l'orgueil s'est retiré. » Voilà, ce qui reste de l'amour, quand l'orgueil s'est retiré. C'est pas beau, ça? Alors on continue avec Marianne Bruche, à la porte des cieux. L'eau porte le ciel en pleine face. À la surface des nuages rebondissent les regrets. L'azur est une profondeur amincie jusqu'à l'ennui. Un filet de vent donne de la voix aux airs les plus éraillés. Dois-je me dépêcher de vivre au cas où le silence viendrait me cueillir? Le temps est inquiétant, mais ces menaces restent légères. Même les arbres croient en quelque chose, sinon les oiseaux seraient intenables. Le vent, soudain, refuse d'être comparé à l'espoir et gifle toute rébellion. Comment fait-on déjà pour se dépêcher de vivre? Fugace coup d'œil. L'ombre des arbres danse mieux qu'une œuvre d'art. Puis le soleil s'en va en effaçant ses fresques. Les marronniers dominent les petites vies qui passent. Le béton, comme le ciel, ne reflète rien de neuf. Les affiches sont laides de tant de beaux appâts. Mes soucis, dans la ville, creusent de longs tunnels. Les grues ont repiqué la ferraille des nuages. L'existence en chantier et l'esprit en travaux ne feront pas carrière. Je cherche peut-être un rêve à couver en secret. Épaisseur et nudité. La nuit est une encre subtile et la douleur change de couleur. Jeter un œil au fond de soi et n'y trouver qu'un peu d'air frais pour l'apaisement ou l'effroi. Le cœur, mieux que nul autre, sait rebattre les cartes. Trop d'entrées dans les dictionnaires et tellement peu de sorties. Échapper aux définitions et la mission de l'être humain. À la géométrie de nos barreaux répondent les feuillages rebelles. Dans le silence, le contour des choses se dessine plus durement et les frayeurs passent du grave à l'aigu. Marianne Bruche, donc. Atmosphère et capillaire, titre de nouveau poème. Les pourquoi nous passent au-dessus de la tête et les comment nous donnent des céphalées. Devant toutes les questions, prendre ses jambes à son cou. Le sens des choses m'atteint par capillarité. Les mots prennent forme par lente décantation. Pas besoin de calcul pour savoir que la vie est tortueuse et que nos peurs sont bleues comme pavés d'hiver. Les pourquoi aux vapeurs inutiles se diluent dans les nuages et les comment, ennuyeux comme la pluie, font des flaques à nos pieds, des nœuds, à nos mouchoirs. Marianne Bruch. Alors Marianne Bruch, elle a exactement d'ailleurs l'âge de ma fille, puisqu'elle est née en 1971, une bonne année ça, 1971, hein, dans la région parisienne. Alors elle publie ses premiers poèmes en 1989, et elle obtient en 1996 le prix Arthur Rimbaud. Elle se consacre pleinement à l'écriture à partir de 2008. Elle aime varier les formes poétiques, les haïkus, les tercets, les proses, les vers libres, ou même des sonnets, elle écrit des sonnets aussi. Ses textes ont paru dans une vingtaine de revues. Alors elle a un blog qui s'appelle, écoutez bien, La Bouche à Oreille. Donc vous pouvez aller le voir, ce blog, La Bouche à Oreille. C'est un blog qui existe depuis 2012. Et elle publie 7 recueils entre 2014 et 2025, Excursion poétique chez Z4, édition en 2023, La portée de l'ombre chez Raphaël de Surtis, donc chez nous, là, ici, à Cordes-sur-Ciel, hein, à côté de, un peu plus loin qu'Albi, en 2020, Buée dans l'hiver aux éditions du Contentieux, donc bien ces éditions du Contentieux, on n'en parle pas souvent, en 2019, et Triptyque chez 500, éditeur en 2015, et Écrit de la nuit, alors chez Polder, gros texte, hein, en 2014, excellentes éditions aussi. Et puis, les éditions Encre Vive ont accueilli ces deux livres de haïku, Haïku des quatre saisons, ça c'était en 2017, et Haïku de la belle saison, c'était en 2024. Voilà, et nous saluons bien sûr nos amis d'Encre Vive, et en particulier donc de son animateur actuel, qui a remplacé donc Michel Cosem, Éric Chassefière. Voilà donc pour cette revue Nouveau Déli. Je vais peut-être continuer pour vous parler d'un poème et d'un poète, pardon, que j'aime beaucoup, qui est Abdellatif Lahabi. Abdellatif Lahabi, bon, c'est devenu un poète mythique. Nous avons fait des émissions sur lui. C'est un poète qui est né en 1942 à Fès, au Maroc, qui a été emprisonné 8 ans sous le régime d'Hassan II, qui a ensuite s'est exilé à Paris, dans la région parisienne, a une œuvre considérable donc de poésie, et puis qui est maintenant, et bien entendu, est totalement amnistié, et peut revenir au Maroc, où il se partage un peu sa vie d'ailleurs, entre Fès au Maroc et la banlieue parisienne. Il a une œuvre qui est une œuvre considérable, dont nous avons parlé ici, je me souviens que son dernier recueil s'appelait « La terre est une orange amère », c'était au Castor Astral, collection poésie, peut-être qu'on y reviendra aussi. Et là, lui qui a reçu notamment le Goncourt de la poésie, qui a reçu le Grand Prix de la Francophonie, qui est un prix qui est décerné par l'Académie française, et surtout alors, le prix Mahmoud Darwish pour la création de la liberté. Voilà. Mahmoud Darwish, donc le plus grand nom maintenant de la poésie arabe contemporaine, c'est Mahmoud Darwish. D'ailleurs, j'espère que au mois d'avril, nous aurons l'occasion à l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse de faire un hommage à Mahmoud Darwish en l'associant au plus grand poète israélien qui est Yehuda Amichai, de manière à ce que les deux puissent se tenir par la main, au moins par la main des poèmes. Voilà. Parce que l'un et l'autre, Mahmoud Darwish et Yehuda Amichai, n'avaient qu'une idée en tête, la paix, Voilà. Alors, Abdelatif Lahbi, il publie aux éditions Le Castor Astral un très très beau recueil. Alors, il s'appelle Un dernier pour la route. On va revenir sur ce titre qui me chagrine un peu, je vais vous dire pourquoi. Et alors, dans ce livre, ce qui est indiqué par son éditeur, qui nous met entre les mains, Abdelatif Lahbi nous rappelle ce qui est sauvegardé, partagé, transmis par cette grande lectrice du cœur qu'est la poésie. On ne se laissera pas abuser par le titre facétieux de l'ouvrage « Un dernier pour la route ». Écoutons plutôt ce que Bernard Noël disait de notre auteur il y a malheureusement fort longtemps, puisque Bernard Noël est mort aussi il y a pas mal de temps. Il disait, Bernard Noël, « Lahbi écrit comme le cœur lance le sang. Sa poésie est cet entraînement qui ressemble à la vie, parce qu'il faudrait le tuer pour l'arrêter. » C'est pas beau, ça ? Il faudrait le tuer pour l'arrêter. Donc, nous allons lire un dernier pour la route. Alors, je vous ai dit que Abdelatif Lahbi, donc il était né en 1932 à Fès, mais son combat pour la liberté, donc je vous l'ai dit, lui a valu d'être longtemps emprisonné, 8 ans d'emprisonnement au Maroc, et dans des conditions vraiment difficiles. Et depuis donc 1985, il vit essentiellement donc dans la région parisienne en France. Alors, le livre « Comment s'évader de la prison de l'univers ?» Vigie de notre contemporain, Abdelatif Lahbi convoque ses souvenirs passés pour mieux décrire l'époque présente. Hein, c'est toujours comme ça que l'on fait. Ce n'est que avec les ombres du passé qu'on avance dans l'avenir, en piétinant le présent. Et donc, face au dérèglement du monde en mutation, et ce dérèglement, il va crescendo, vous le voyez tous les jours, contre les nombreuses victimes de guerre, ce qui est insupportable, ces nombreuses victimes de guerre, qui sont dues simplement à la bêtise énorme de quelques-uns de nos dirigeants. Le recours au poème devient essentiel pour faire entendre sa voix à Abdelatif Lahbi et éveiller les consciences. Par sa justesse, sa force, sa langue, nous rappelle combien notre civilisation est fragile. Ça, c'est quelque chose que l'on oublie, que notre civilisation est fragile et que nous pouvons aussi tomber. Chuter, ce que nous sommes en train de faire, certainement. Nous sommes dans la chute. Mais bon, la chute est lente, donc on ne la voit pas trop. Et sa poésie, à Lahbi, elle exhorte surtout à ne pas succomber à la facilité et à poursuivre notre lutte quotidienne pour une vie plus juste. Abdelatif met en œuvre une esthétique de la dissidence, où écrire est engagement, l'écriture un lieu d'errance utopique. C'était à l'émission La Grande Table, France Culture. Alors j'invite à vous procurer ce livre, Un dernier pour la route. Le prix est de 16 euros, mais voilà. Et je vais vous lire, puisque de la Tivlabi, vous l'avez compris, c'est une des figures majeures du paysage littéraire francophone, mais il s'inscrit parfaitement dans l'histoire de la poésie française. Un dernier pour la route, c'est le recueil. On va entendre. Déjà, La Terre est une orange amère. Je trouvais que c'était un recueil quand même très très intime. Tepte Latif Labi. On va y revenir peut-être sur ce recueil. Et celui-là, vraiment, vraiment le plus intime. Alors, il aborde avec sincérité. Il est né en 1942. Abdel Latif Labi, donc, cet âge-là, dès qu'on passe les 80 ans, bien entendu, il faut aborder avec sincérité et justesse la vieillesse. Et le temps qui passe, mais la poésie lui permet toujours de lutter contre la barbarie. Voilà. Il n'a pas arrêté, il n'a jamais arrêté de lutter contre la barbarie. Il a payé de sa chair, il a payé de sa liberté, 8 ans, pour lutter contre la barbarie. Vous rendez compte, 8 ans d'emprisonnement. Donc c'est une écriture, celle d'Abdel Latif Lahabi, empreinte d'humanisme et toujours soucieuse du combat à mener pour plus de justice et de liberté. Alors, il y avait avant, il avait fait paraître au Castor Astral, La poésie est invincible, on en a parlé aussi, et qui a été fortement salué par la critique, et ça a même été un succès de librairie. Voilà. Alors, il faut qu'un dernier pour la route, publié toujours au Castor Astral, soit aussi un succès de librairie. Mais avant de lire peut-être les poèmes de Un dernier pour la route, je ne résiste pas au plaisir de vous lire La Terre est une orange amère, toujours de Abdel Latif Lahabi, bien sûr, et toujours de cette collection, Le Castor Astral Poésie. Castor Astral Poésie. Voilà, je n'ai que l'embarras du choix. Alors, je vais lire Ukraine, cette guerre-ci. Parce qu'une guerre dans les médias finit par en chasser l'autre et on oublie ça. Deux nuages. Un nuage ayant la forme de l'Ukraine, suivi par un autre, ayant la forme de la Russie. Tous deux gracieux, ailés, tels des cygnes, nageant librement, majestueusement dans le lac du ciel, je les accompagne du regard jusqu'à leur disparition brutale dans le trou noir qui s'est formé dans ma tête depuis le déclenchement de la guerre. Vérité criante. On peut avancer toutes les théories du monde sur les dessous de cette guerre-ci, rappeler tous les crimes commis dans le passé, proches ou lointains, par les génocidaires, les esclavagistes, les colonialistes, contre l'ensemble des peuples de la terre, mais on ne pourra pas nier la vérité simple, criante, irrécusable, que dans la guerre qui nous occupe aujourd'hui, les Ukrainiens défendent leur terre, leur liberté, et les soldats russes agissent en esclaves aveugles d'un tyran. Voilà, ça le mérite d'être d'une clarté absolue. Il dit les choses telles qu'elles sont. Pardon. Stupeur. Les images atroces ne montrent que l'endroit de la tragédie qui s'est déroulée. Nous restons ignorants de son envers, des minutes où le bourreau exécute sa sale besogne, où la victime passe de vie à trépas. La stupeur, la vraie, nous échappe. Voilà. À lire dans La Terre est une orange amère d'Abdel Latif Lahabi au Castor Astral. Et revenons à Un dernier pour la route. Donc recueil magnifique, très émouvant parce qu'Un dernier pour la route, non, bien sûr, j'espère que ce ne sera pas le dernier recueil d'Abdel Latif Lahabi. Et je pense, j'espère aussi que lui-même n'y croit pas, il manquerait plus que ça. Voilà. Il y a un exergue, une citation de Abu Li Ataïya, excusez mon prononciation, c'est un poète du 8e et 9e siècle qui est né et mort en Irak et qui dit ceci: Si jeunesse pouvait un jour revenir, je lui dirais ce que vieillesse m'a fait subir. Voilà. Oui, on y pense souvent, hein. Et puis, de Abd al-Wahhab al-Bayati, Bayati, toujours poète d'Irak, lui qui a vécu de 1926 à 1999, hein, qui est assez connu, hein, il dit ceci: seul le tavernier est vainqueur. Alors, c'est écrit en arabe. La galiba illa al-kamar. Voilà. Première gorgée, donc, de ce livre. Un dernier pour la route. Vous avez compris ce que cela veut dire. Ce ne doit pas être le chant du cygne. Ce ne doit pas être le chant du cygne. Voilà. Je ne me résous pas à lire ce livre comme le chant du cygne d'Abdelatif Labi, mais comme un de ses recueils en attendant le prochain. Je suis prêt. Fini les bilans, les promesses, les regrets, les adieux. Je suis prêt. Purifié de l'extérieur et de l'intérieur, homme sans besoin. Ne ressentant plus ni haine ni passion, dévidant avec soulagement le fil de ma mémoire, les yeux toujours ouverts, pour graver sur mes rétines les visages qui m'accompagneront à jamais. Je suis prêt pour aborder l'inconnu, exactement comme je l'étais quand je fus un jour accueilli par la vie. Certains matins, sans soleil, sans oiseaux dans les arbres, sans abeilles butinant mes fleurs, ne sont pas de bons conseils. Abdelatif Labi, éloge du désert. Je pense souvent au désert. Ces tempêtes de feu, la parole neuve qui en surgit chaque millénaire, les civilisations disparues qu'il protège ou dénude à son gré, ces chemins qui n'ouvrent qu'aux égarés. Roi sans sujet, garant de la lumière pérégrine des étoiles, pourvoyeur de la plus pure des rosées, témoin averti de la mer et des océans, de la lente reptation des continents. Je pense au désert où je me sens si bien. Alors qu'il est loin, si loin. Abdelatif Labi. Un sourire dans la nuit. Qui me sourit au fond de la nuit? Celle qui tombe du ciel? Ou celle que je provoque en me plongeant dans l'obscurité? Le sourire s'adresse bien à moi. Et je ne sais qu'en penser. Avec quel mot le décrire? Même s'il m'émeut, je sais qu'il peut être moqueur, sournois, voire hostile. Quoi qu'il en soit, quand je le vois éclore au fond de la nuit, je ne saurais lui répondre que par le sourire. Malhonnêteté? Avec un point d'interrogation. Après des mois de sécheresse et de dispersion, je me retrouve en train d'écrire. Je croyais avoir décidé d'arrêter sans appel cet exercice pour cultiver enfin mon jardin, réel ou imaginaire. Disparaître du jour au lendemain sans laisser de traces. Faut monter quelques actions d'éclat qui resteraient dans les livres, commettre un irréparable que même les plus proches d'entre les proches auraient du mal à comprendre. Décidément, je n'ai pas de parole. Comment pourrais-je me regarder dans un miroir sans pouffer de rire quand je renoue malhonnêtement avec l'écriture en laissant libre cours à ma jubilation. Voilà, poème magnifique, hein. Avec bon, cette dérision de soi, qui est l'apanage de tous les grands penseurs du monde, quoi. Un grand poète qui n'aurait pas, au fond de lui-même, cette autodérision, serait inquiétant et certainement produirait des choses plutôt ennuyeuses. C'est pas du tout son cas. Il n'y a rien d'ennuyeux donc chez Abdelaziz Lahabi. Jamais, jamais. Et puis, il y a cette ironie, cet amusement permanent, l'amusement de lui-même, bien sûr, mais en même temps, l'amusement qui permet de voir le monde, hein, avec un peu plus de légèreté, de distance et un peu plus d'espérance. 21e siècle. Je ne suis pas un homme du 21e siècle. Que m'a-t-il apporté jusqu'à maintenant, en dehors de quelques avancées de la science, la découverte d'une poignée de bons auteurs et de rares œuvres d'art? Quant à l'échelle humaine, inutile que j'en rajoute. La coupe n'est pas seulement pleine, elle déborde. Et de quoi? D'une quantité de sang humain qui pourrait faire refleurir un, deux, trois déserts. De folies jadis inimaginables, comme de défricher au bulldozer les tombes des ennemis qu'on a récemment trucidés, de manipulations grossières pour ôter de la langue la pensée et de la raison l'intuition pour sauder la ferraille rouillée du mal à la soie grège du bien. Cela dit, je n'irai pas jusqu'à faire l'apologie du XXe siècle. Voilà. On retrouve toujours cet humour, ce ton facétieux, mais en même temps extraordinairement lucide, en disant que oui, le XXe siècle, quand on regarde, on est en 2026, c'est 26 ans, franchement, qu'est-ce qu'il y a eu de... Quelles sont les avancées? Bon, oui, il y a des avancées technologiques, des avancées scientifiques indéniables. Et bon, l'IA, par exemple, va bouleverser. Il n'existait pas il y a 26 ans. Ne s'était pas invité dans notre vie de quotidienne. Plein de choses comme ça. Mais honnêtement, est-ce qu'il y a vraiment autre chose qu'une poignée, comme il dit, une poignée de bons auteurs et quelques rares œuvres d'art? Il a raison. Ou on n'a pas le recul, ce qui m'étonnerait, parce que maintenant, quand même, avec les médias, avec justement ces moyens d'avoir une actualité et d'avoir un spectre absolument grandiose de tout ce qui se passe dans le monde, et donc ce qui se passe chez nous, on saurait ça. Voilà. Alors il a raison. Il a raison. Mais ce qui est amusant, c'est sa conclusion, parce qu'il dit, bon, le XXe siècle, c'est les gens foutre en définitive, il n'y a pas grand-chose, quoi. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Mais si on regarde le XXe siècle, franchement, lui aussi, il n'y a pas de quoi faire l'apologie. Voilà. Et, il a peut-être raison aussi. Une étoile. J'aimerais tant, non pas posséder, mais avoir une relation privilégiée avec une étoile, une seule, qui me reconnaîtrait au moment même où je la reconnaîtrais chaque nuit parmi les milliards de milliards d'étoiles. J'aurais sûrement beaucoup de choses à lui dire et confier à elle seule mon assiduité, ma fidélité à son égard. Parviendrait-elle à la convaincre de mes bonnes intentions au point qu'elle finirait par me parler dans le langage de la lumière? Alors, je la sentirais proche, si proche, que je ne me rendrais pas compte de l'instant où elle prendrait la place de mes yeux. Et puis, nous y sommes, hein, dans l'attente du printemps. Poème donc d'Abdelatif Lahabi, extrait de toujours de Un dernier pour la route au castor astral. Même si je ne me fais plus d'illusions, sur l'ancienne rotation régulière des saisons, j'attends, en cet hiver bâtard, le printemps. Viendra-t-il trop tôt ou trop tard? S'appuyant sur une canne et vociférant contre les atteintes à ses droits et son apanage, fera-t-il une apparition en grande pompe pour filer grossièrement à l'anglaise? Renouera-t-il, pour une fois, avec la politesse des princes, et fera-t-il gonfler de sève les seins des arbres, refleurir des humains, les mains, les mamelons et les lèvres? Répandra-t-il sur la page du ciel la touche d'indigo que n'utilisent que les grands maîtres, que vienne le printemps, fût-ce en automne. Adélatif Labi, alors on retrouve là, toujours, hein, ce ton prime-sautier, léger, bon, et en même temps terriblement poétique, et d'une simplicité absolue qui fait que, vraiment, c'est un poème que l'on, dont on décrypte le sens immédiatement. Et puis, les forces qui me restent. À quoi vais-je maintenant consacrer les forces qui me restent? Puis-je être franc? D'abord, elles sont devenues très modestes. Ensuite, je ne vois pas ce qui pourrait sortir de l'ordinaire, ou plutôt de ce que je sais faire, de ce qui me donne encore envie de vivre, amour, liberté, et contre vents et marées, espoir. Disons les choses encore plus franchement, brutalement même, je vois bien que je frôle l'inutilité et qu'à terme, le maître oubli aura à mon encontre le dernier mot. J'entends déjà les protestations. Voilà, et il écrit oubli avec un O majuscule. Alors il y a, comme chez tous les grands poètes, et Dieu sait si Abdelatif Labi a beaucoup écrit et fait partie de ces, entre guillemets, grands poètes, hein. Il n'y a pas là quelque chose de grandiloquent quand je dis que Labi est un grand poète. Il y a là quelque chose qui et d'une telle simplicité, mais aussi avec toujours cette autorisation et cette sincérité absolue. À lire absolument un dernier pour la route d'Abdelatif Labi aux éditions Le Castor Astral. Le livre vous coûtera 16 €, mais vraiment, vous passerez un bon moment à lire ces textes. Ces poèmes d'Abdelatif Labi que nous saluons. Abdelatif Labi qui a été prix de poésie, grand prix de poésie de l'Académie de Jeufleureau de Toulouse. Voilà. Ainsi s'achèvent les poètes. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente semaine d'écoute Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine. Adicias.